Il est 8h.
Il va falloir changer tous les plannings, regarder qui peut télétravailler, qui ne peut pas. 2 jours pour organiser tous les plannings de 50 personnes. Là où, en général, nos collaborateurs ont leur planning 15 jours en avance.
À tous les Français, mobilisation et adaptation générale. Les écoles ferment, les parents doivent télétravailler et les entreprises s'organiser. Carburant, trafic routier, transport en commun, les chiffres qu'Europe 1 a obtenus montrent à quel point les consignes de prudence n'avaient pas été suivies. Et puis, dans ce journal, les Américains qui regardent moins la télévision qu'il y a quelques mois, faut dire que la vedette du petit écran n'est plus là, un certain Donald Trump. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Les mesures annoncées par le président seront-elles efficaces? Va-t-on voir vraiment le bout du tunnel à la mi-mai? Mon invité, alors il ne fait pas dans la langue de bois, on va le voir dans quelques instants. C'est l'épidémiologiste et médecin en santé publique Martin Blachier, rendez-vous à 8h15.
Juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1, il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Quoi qu'il en dise, Emmanuel Macron a fait tomber un totem hier soir. Les écoles restées ouvertes, une singularité, une fierté française, ça ne pouvait plus tenir. Pas plus que se contenter d'appeler chacun à un comportement exemplaire.
Croire en la responsabilité des Français, ça n'est jamais un pari.
Si ce n'était pas un pari, c'était un vœu, une demande adressée aux Français. Mais on va le voir avec les données, les faits irréfutables qu'Europe 1 a récoltés. Cet appel à la prudence n'avait pas été entendu.
Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les décisions annoncées hier soir ne sont pas dues qu'aux chiffres sanitaires qu'on entend souvent.
Oui, il y a notamment 2 autres indicateurs qui ont pesé dans la balance. D'abord la fréquentation du réseau routier. Selon une note interministérielle transmise à l'Élysée, le trafic national était identique la semaine dernière à celui observé en temps normal. Et puis, il y a la consommation de carburant, un tout petit peu en dessous de la norme en ce moment. C'est aussi le signe de déplacement trop fréquent et la preuve que le télétravail volontaire ne prend pas. Une entreprise sur 6 n'est pas en règle et ça se voit dans les transports.
Et alors ce qui est frappant Clément, c'est que ce que vous nous dites, c'est valable aussi dans les 19 départements déjà soumis à des mesures de restriction.
Oui, et c'est même encore plus frappant. Prenez l'Île-de-France par exemple. Si on regarde les données de déplacement collectées par Google Maps, hein, les trajets vers les lieux de travail y sont actuellement inférieurs de 35% à un jour normal. C'était moins 50% lors du deuxième confinement en octobre. Même constat d'échec dans d'autres villes concernées par les restrictions comme Lille, Rouen et Nice. On se déplace en voiture, mais on prend aussi trop les transports en commun, lieu de brassage du virus. En Île-de-France, la fréquentation des trains et métros se situe à 45% du niveau habituel. C'est 10 points de plus que lors du deuxième confinement. Et c'est pour ça qu'à partir de lundi, les contrôles sur les routes et dans les gares seront renforcés.
Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1. On entend avec vos informations qu'il y avait de la marge en termes de télétravail.
Oui, la fermeture des écoles pour 3 semaines, des collèges et des lycées pour 4 semaines oblige des millions de parents à s'y résoudre au télétravail et des centaines de milliers d'entreprises à s'adapter, comme cette société Euris, 50 salariés dans l'Essonne. Olivier Samin.
Systématiser le télétravail, on va savoir faire, dit Alexandre Moret-Bourny. 75% de ses salariés fonctionnent déjà comme ça. La question sensible, c'est la fermeture des écoles et les problèmes qui en découlent pour certains parents. Le patron s'attend à une fin de semaine compliquée.
La problématique, elle est surtout sur les gens qui ont des enfants en crèche et à la petite école. Les collégiens et les lycéens arrivent à se gérer, mais il va falloir changer tous les plannings, regarder personne par personne qui peut télétravailler, qui ne peut pas. Donc on va avoir 2 jours pour organiser tous les plannings de 50 personnes pour la semaine prochaine, là où en général nos collaborateurs ont leur planning 15 jours en avance.
Alexandre Moret-Bourny se doute bien que dans le mois qui vient, la productivité de son entreprise va fléchir. Mais il garde le moral. Avril 2021 sera de toute façon meilleur qu'avril 2020.
Je suis plus serein que l'année dernière. On est dans le connu, on est dans le déjà vu. J'ai le sentiment qu'on en a pour un mois et demi encore de difficile et qu'après, on pourrait voir un petit peu le bout du tunnel.
La nouveauté cette fois-ci, dit-il, c'est qu'on a un calendrier et ça change tout.
Il y a donc les écoles qui ferment et il y a ces restrictions que l'Île-de-France et les Hauts-de-France avaient inaugurées à la mi-mars. Toute la métropole bascule.
Déplacement interdit entre régions avec une tolérance jusqu'au soir du lundi de Pâques et un total désormais de 150 000 commerces obligés de fermer. Ce nouveau confinement va être terrible, ce doit être le dernier, commente Geoffroy Roux-de-Bézieux, président du MEDEF. Ce sont à présent 11 milliards d'euros d'aides publiques qui sont nécessaires par mois. Et pour Emmanuel Macron, il y a une clé pour renouer avec la vie. Selon ce sont ces termes. La vaccination donc, avec le calendrier qu'il confirme. Tous les adultes qui le souhaitent pourront avoir été vaccinés d'ici la fin de l'été. été. Concrètement, les 60 à 70 ans pourront prendre rendez-vous à partir du 16 avril, les 50-60 ans à partir du 15 mai et les moins de 50 ans à partir de la mi-juin. Encore faut-il qu'il n'y ait plus de mauvaises nouvelles et plus de retard de livraison.
L'enjeu est stratégique politiquement en vue de 2022, bien sûr, comme nous le disait Louis Dragnel dans le journal de 7h.
D'où l'importance des vaccinodromes pour aller vite. Comment s'y prépare du côté de Lyon, Jean-Luc Bougeon?
C'est ce qui s'appelle vacciner en masse. Durant les trois jours du week-end de Pâques, le Groupama Stadium va se transformer en vaccinodrome géant pour une opération coup de poing, explique Philippe Guetta de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes.
Notre objectif, c'est de vacciner 9000 personnes sur les trois jours. On a obtenu justement des doses supplémentaires pour vacciner nos concitoyens le plus rapidement possible. Il y a à peu près une trentaine de stands, donc il y aura une trentaine de lignes de vaccination. C'est beaucoup, en tout cas, c'est le maximum de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent.
Cela veut dire 3000 vaccinations par jour avec le sérum Moderna et à destination des plus de 70 ans ou des personnes souffrant de comorbidité. C'est le club de foot de l'OL qui met à disposition un grand bâtiment dans l'enceinte de son stade. Une façon de participer à l'effort collectif, explique son président Jean-Michel Aulas.
On va intervenir sur le plan de la logistique, sur le plan économique, parce que ça a des coûts et c'est nous qui allons les prendre en charge. Et puis aussi pour essayer de sensibiliser tous les bénévoles qui vont nous aider à réussir le maximum de vaccinations. Donc il y a déjà beaucoup de salariés et de partenaires de l'OL qui se sont manifestés. C'est dans l'intérêt de toute la région lyonnaise, mais aussi de la France.
La région lyonnaise où le niveau de la vaccination est inférieur à la moyenne nationale et où le taux d'incidence frôle désormais les 500 cas pour 100 000 habitants. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe.
On note aussi cette promesse hier soir pour les réanimations qui devraient passer de 7 000 à 10 000 lits grâce au renfort d'étudiants, de retraités et du service de santé des armées.
Vous restez avec nous dans un instant. Quel impact psychologique dans une France déjà sonnée par un an de crise?
Et puis Donald Trump qui manque cruellement aux chaînes de télé américaines, en tout cas à leurs audiences.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h09, la suite du journal, François Geffrier.
La fermeture des écoles, c'est aussi un impact direct sur le moral de beaucoup d'enfants. Comme le raconte cette maman, Nadia, dont la petite fille a 7 ans, son école est déjà refermée depuis lundi à cause de plusieurs cas de Covid.
Bien sûr, c'est une catastrophe de fermer les écoles. Les écoles, c'est un lieu de socialisation, c'est un lieu d'apprentissage. Et moi, ma fille l'a très mal vécu l'année dernière. Donc, je veux dire, ça a été des crises, ça a été des angoisses. J'ai une petite fille aujourd'hui qui a peur, qui fait des cauchemars la nuit, qui se mange les doigts, qui a toujours peur de plus revoir ses copains, qui a peur de pas réussir. Elle me parle de son avenir, elle a que 7 ans et demi. Je vais plus à l'école et l'école, on s'arrête tout le temps. Donc voilà. Alors ça, c'est des angoisses qui peuvent arriver normalement à l'adolescence. Et nous, on est confrontés à ça dès l'âge de 7 ans et demi.
Nadia, au micro Europe 1 de Stéphane Frangy.
Plus largement, les annonces successives, les restrictions qui durent, cela préoccupe pour la santé mentale des Français.
Oui, la courbe des dépressions et troubles anxieux est au plus haut, Virginie Salmen, depuis l'automne et elle ne redescend pas.
Effectivement, les passages aux urgences pour dépression ou phase maniaque sont en hausse pour la quatrième semaine consécutive. Beaucoup de Français sombrent sans forcément consulter, selon Enguerrand Durosquat, responsable de l'unité santé mentale de Santé publique France.
Si on regarde tout cumulé, c'est à peu près 30% de la population qui souffrirait d'états soit anxieux, soit dépressifs. On a surtout observé une augmentation importante des états dépressifs entre fin septembre et début novembre, c'est-à-dire la rentrée dernière et la rentrée dans le deuxième confinement, et avec des prévalences d'états dépressifs anxieux qui se maintiennent à un niveau élevé.
Parmi les plus vulnérables ces dernières semaines, les jeunes adultes dont la vie sociale est encore en construction, pour le psychologue clinicien Cyril Cossard.
Ce qui me frappe le plus, c'est la déliaison. On va avoir une population qui va être plus atteinte de ceux qui n'étaient pas très insérés ou qui n'avaient pas encore construit leur base et leur structure quotidienne dans les rapports sociaux. On sent que tout le monde perd confiance en tout le monde, en fait. On ne croit plus ce que dit machin, on ne croit plus ce que dit truc, les gouvernements. Et du coup, à force de perdre confiance, en fait, on se déconnecte.
L'enjeu de ces prochaines semaines, c'est de maintenir des relations sociales au téléphone, en plein air, en vidéo, malgré les restrictions.
Virginie Salmen.
8h11 sur Europe 1. Aux États-Unis, un deuxième chèque gigantesque en deux mois de mandat.
Oui, Joe Biden précise son plan d'investissement de 2000 milliards de dollars dans les transports, l'industrie ou encore les réseaux Internet. Pour financer ces dépenses, le président américain annonce la couleur aux entreprises. Leurs impôts vont augmenter. Les États-Unis, où le départ de Donald Trump de la Maison Blanche a eu un impact inattendu. Un être vous manque et tout est dépeuplé visiblement, puisqu'il ne fait plus la une des journaux et il manque déjà aux médias américains.
Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour.
Alexis, les audiences sont en chute libre depuis son départ.
Oui, un quart de lecteurs en moins pour le Washington Post, moins 45% d'audience pour les prime time de CNN depuis un mois et demi. Malgré des relations très difficiles avec Donald Trump, les médias américains ont perdu leur poule aux œufs d'or. Alors cette chute des audiences n'est pas une surprise pour Victor Picard, il est professeur de communication à l'Université de Pennsylvanie. Trump avait beaucoup de valeur pour les médias, il générait des polémiques, du conflit, des drames. On restait scotché devant nos écrans. Pendant 4 ans, les tweets de Donald Trump ont rythmé l'actualité américaine. Son successeur, Joe Biden, est beaucoup plus discret. Et depuis 2 mois, ce sont les médias conservateurs qui s'en sortent le mieux. Par exemple, Fox News, qui a perdu une toute petite partie de son public. C'est un peu plus facile pour les médias de droite parce qu'ils peuvent juste être dans l'opposition vis-à-vis de Joe Biden, explique Victor Picard. Mais c'est toujours plus compliqué pour les médias progressistes quand un démocrate est au pouvoir. Leur public ne veut pas qu'il soit trop critique. Pour autant, Donald Trump n'a pas totalement disparu. Banni de Twitter, il va créer son propre réseau social dans les prochains mois, une plateforme qui doit totalement redéfinir les règles du jeu, selon un conseiller de l'ancien président.
That's enough. Alexis Guilleux, merci, ça suffit. Depuis New York pour Europe 1. En football, ils n'ont pas brillé, mais ça passe. Victoire 1-0 pour l'équipe de France lors de son 3e match de qualification pour la Coupe du Monde. C'était face à la Bosnie-Herzégovine.
Merci beaucoup François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1, 8h13. Dans quelques secondes, Sonia Mabrouk et son invité, l'épidémiologiste Martin Blachier. À tout de suite.